Nous sommes le vendredi 20 septembre, bonjour et bon réveil à tous, bienvenue sur France Inter, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, nouvelle mobilisation pour le climat avant le sommet de l'ONU lundi prochain, des jeunes du monde entier défilent aujourd'hui, demain ce seront les adultes et un même objectif, obliger les gouvernements à agir. Les autres titres, Agnès.
Le témoignage du médecin qui a permis la découverte d'essais cliniques clandestins, les ambitions nationales de Xavier Bertrand, le coup d'envoi de la 9e Coupe du Monde de rugby, c'est au Japon. Et puis une savoureuse leçon d'anglais délivrée par le comédien Charles Gérard Morière. Il était le second rôle fétiche de Claude Lelouch.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avant l'ouverture lundi du procès du médiateur. Rendez-vous avec la pneumologue et lanceuse d'alerte, celle à qui l'on doit la révélation de ce scandale sanitaire, Irène Frachon. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le philosophe Alain Finkielkraut. Il se raconte dans un livre à la première personne. C'est le titre, livre qui paraît chez Gallimard. Vos questions à Alain Finkielkraut dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. Nous ne coulons pas, nous nous battons. Les écoliers du Pacifique, dont les îles sont menacées par la montée des eaux, ont donné ce matin le coup d'envoi de la mobilisation mondiale contre le réchauffement climatique. Les jeunes Australiens sont ensuite descendus dans les rues. Eux dénoncent les immenses feux de forêt et la destruction de la grande barrière de corail. En tout, ce sont 5000 événements dans 135 pays qui sont ainsi prévus pour ce vendredi pour le futur. Mouvement initié par Greta Thunberg avec plus d'un million de jeunes attendus à New York, où se trouve actuellement l'égérie suédoise, avant donc le sommet de l'ONU prévu lundi. Manifestation également en France, où les lycéens et les étudiants que Célia Kiré a rencontrés ne semblent pas vraiment convaincus par les discours d'Emmanuel Macron.
À Biarritz, fin août, Emmanuel Macron l'a clamé, on doit répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle. Mais aujourd'hui, certains jeunes mobilisés pour le climat ne croient pas à ce verdissement promis par le chef de l'État. Marie Chureau est étudiante à Paris, elle est en pointe dans la mobilisation.
Ça fait plus de 6 mois que le mouvement est né, ça fait plus de 6 mois qu'on marche, ça fait plus de 6 mois qu'on fait des actions de désobéissance civile et le gouvernement fait toujours la sourde oreille, les grosses entreprises continuent de polluer. Qu'ils en prennent conscience, c'est très bien. Maintenant, on attend les actes derrière. On attend qu'il n'y ait plus d'investissement dans les énergies fossiles. Enfin, moi, j'ai 17 ans, je ne me vois pas vivre dans un monde tel que le prédit le GIEC.
Quant aux ONG, elles continuent de dénoncer certaines incohérences du gouvernement. Elodie Nas, du mouvement Alternatiba, espère même faire monter le rapport de force.
On a encore des grands discours sur le climat, mais c'est le même gouvernement qui continue de ratifier des accords de libre-échange, comme le CETA, comme ce projet du Mercosur. C'est aussi ce pouvoir-là qui continue de donner des accords pour des projets d'extension d'aéroports, des grands centres commerciaux comme celui d'Europa City en Ile-de-France. On ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas gain de cause.
Et pour radicaliser leur mouvement, ces ONG promettent davantage d'actions de désobéissance civile. Il y en aura une demain à Paris lors de la marche pour le climat.
Alors la manifestation des lycéens aujourd'hui à Paris partira de la place de la Nation à 14h, direction le parc de Bercy. Et demain donc la grande marche pour le climat organisée dans la capitale partira du jardin du Luxembourg pour rejoindre également le parc de Bercy. Demain à Paris sont également attendus les gilets jaunes et les dizaines de milliers de visiteurs attirés par les journées du patrimoine, d'où un important dispositif de sécurité. Le détail dans le journal de 8h. 173 mesures pour la France des territoires. Le Premier ministre présente aujourd'hui dans le Nord l'agenda rural du gouvernement. Un certain nombre de ces mesures avaient déjà été annoncées pour calmer la colère des gilets jaunes. Pour soutenir la création de petits commerces, l'État va notamment remettre en circulation des licences 4 qui permettent de vendre de l'alcool. 33 campus connectés permettant de poursuivre des études supérieures à distance vont également voir le jour pour les étudiants. La défense des territoires, cheval de bataille de Xavier Bertrand depuis son retour dans les Hauts-de-France, après avoir été notamment le ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy. Il était l'invité hier soir de l'émission politique Vous avez la parole sur France 2. Un ancrage local, mais des ambitions nationales qu'il n'a pas cachées. Cécilia Arbonnat.
La conquête, selon Xavier Bertrand, se décompose en deux temps. D'abord, rester concentré sur son mandat actuel.
Ma priorité, c'est la région. Et la priorité de mes interventions, c'est la région.
Puis s'assurer de sa cote de popularité, sa légitimité, après 4 ans passés à diriger les Hauts-de-France.
Je serai candidat à cette élection en 2021. Est-ce que je suis candidat à la présidentielle? Oui. Est-ce que je serai candidat à la présidentielle? J'y pense.
Conscient que la droite, déboussolée et affaiblie, se cherche un chef de file, il lève le doigt pour monter sur scène. Mais l'ancien secrétaire général des Républicains n'entend pas revenir dans le parti qu'il a quitté.
Si vous me citez une idée qui est né dans un parti politique, pas dans une campagne présidentielle, depuis 10 ans, je vous en serais très reconnaissant.
Sa participation dans la course à l'Élysée relèvera d'un choix personnel, mais surtout de son résultat au scrutin de l'année précédente.
Il est évident que si dans la région des Hauts-de-France, 6 millions de personnes ne souhaitent pas que je continue, ça veut dire ne sont pas satisfaites de mon action, dans ces cas-là, je n'ai aucun crédit pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est une évidence.
Donc quoi, vous arrêtez la politique, ça veut dire quoi?
Oui.
Depuis qu'il s'est éloigné de Paris, l'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy l'assure, il a gagné en humilité. Les conneries, dit-il, je les ai faites avant, quand j'étais ministre, quand j'avais la grosse tête.
Cécilia Arbona. 2000 appels ou courriers recueillis en 3 mois par la commission chargée de faire la lumière sur les agressions sexuelles commises par des hommes d'église sur des mineurs depuis les années 50. 650 ont accepté de répondre à un questionnaire détaillé et une quinzaine de signalements à la justice sont en cours. Le numéro vert est ouvert jusqu'en juin prochain. Il s'agit du 01 80 52 33 55.
7h06, la suite du journal, et l'on revient à présent sur cet essai clinique clandestin qui était interdit hier par l'Agence du médicament.
Des dérivés de mélatonine aux effets inconnus ont été testés sur au moins 350 malades de Parkinson et d'Alzheimer. L'essai illégal était mené dans une abbaye près de Poitiers par une structure baptisée Fonds Josepha, dont le vice-président et le professeur Henri Joyeux contestaient depuis longtemps dans la communauté médicale à cause de ses positions anti-vaccins et dans le rôle du lanceur d'alerte, le neurologue Philippe Damier, que Véronique Julia a joint.
Première alerte il y a 2 ans, le professeur Philippe Damier, vice-président du comité scientifique de France Parkinson, apprend via des patients que le professeur Joyeux travaille sur un traitement. Il le prétend capable d'agir sur la maladie. Philippe Damier met tout de suite en doute la pertinence scientifique de cette approche. Il l'écrit à l'époque sur le site de l'association. C'est au printemps dernier qu'il s'inquiète pour de bon, alerté cette fois par une collègue neurologue.
Un de ses patients lui avait dit qu'on lui avait proposé de participer à un essai conduit par les professeurs Joyeux et Fortignon. J'ai été très inquiet de voir qu'il y avait un essai thérapeutique qui démarrait. Et là, on a eu la surprise en interrogeant la NSM de voir qu'il n'y avait aucun essai thérapeutique de déclaré.
Et vous l'avez donné quand, l'alerte ?
Au mois d'avril dernier.
Élément aggravant, les patients pour participer à l'essai devaient, d'après ce que le professeur Damien en sait, faire un don d'abord au fonds géré par le professeur Joyeux. Ils devaient promettre ensuite de ne rien dire à leur neurologue habituel et surtout arrêter tout traitement pendant la durée de l'essai en question.
L'arrêt brutal non contrôlé d'un traitement anti-Parkinson peut entraîner des hyperthermies très graves. Il y avait vraiment de la manipulation de patients en détresse.
Pour le professeur Damier, les produits donnés lors de l'essai ne présentent pas a priori de toxicité particulière. C'est cet arrêt des traitements habituels qui lui semble la plus dangereuse. Son alerte émise en avril a conduit la NSM à interdire l'essai en septembre, 5 mois plus tard, un délai raisonnable d'après l'Agence du médicament, pour mener l'enquête et vérifier les faits.
Rien ne va plus dans le ciel français. Après Aigle Azur, la compagnie aérienne XL Airways a demandé hier son placement en redressement judiciaire. Basée à Paris-Charles-de-Gaulle, l'entreprise emploie 570 salariés, transporte chaque année près de 700 000 passagers sur des vols long courriers à destination des Antilles, des États-Unis ou de la Chine. La compagnie a cessé de vendre des billets hier et certains vols pourraient être annulés à partir de lundi. Difficulté aussi pour la manufacture charentaise et ses célèbres chaussons qui emploient 108 personnes près d'Angoulême et qui a jusqu'à la fin de mois pour trouver des repreneurs. Les Tunisiens qui ont infligé un camouflet aux candidats sortants lors du premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier ont appris hier le décès de celui qu'ils avaient chassé du pouvoir en 2011, l'ex-président Ben Ali, mort à 83 ans en Arabie Saoudite où il avait fui après la révolution de Jasmin. Il avait dirigé le pays d'une main de fer durant plus de 20 ans. Reportage à Tunis de Maureen Mercier.
Ici, la mort de Ben Ali, ce n'est pas un événement.
Il est mort. Et alors ? Ben Ali, c'est qui ? C'est un terroriste. Il nous a fait vivre dans une terreur.
Pour la plupart des Tunisiens, Ben Ali était déjà de l'histoire ancienne, parce que silencieux depuis près d'une décennie, depuis son exil en Arabie Saoudite. Comme tant d'autres, cette jeune Tunisienne aussi entre indifférence et écœurement.
On attendait qu'il demande pardon. Et il l'a pas fait.
Ici, on entend souvent cette petite musique, le fameux « c'était mieux avant ». Mais ceux qui disent dans un premier temps regretter Ben Ali expliquent très vite ensuite qu'ils regrettent en fait la stabilité économique d'avant la révolution de 2011, non pas l'autoritarisme. À quelques exceptions près, comme cet homme, 81 ans, il continue de travailler malgré son âge avancé.
Son excellence, le président Ben Ali, nous a quittés. Il nous a protégé pour 23 ans des islamistes et des terroristes. Maintenant, il y a des braquages, il y a tout. On est libre de quoi ? De parler, mais pas autre chose.
Le corps de Ben Ali sera enterré aujourd'hui à la Mecque, selon une déclaration de son avocat. Si le corps de Ben Ali devait être rapatrié, sa femme, elle, risque la prison si elle revient en Tunisie. Elle a été condamnée à plusieurs dizaines d'années, notamment pour corruption et détournement de fonds. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Une nouvelle journée de manifestation qui s'annonce tendue aujourd'hui à Alger. Depuis hier soir, les routes sont bloquées par les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de se rendre dans la capitale. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
France Inter, 7h10. Une nouvelle terre de conquête pour le rugby, Agnès.
Pour la première fois, la Coupe du Monde se déroule dans un pays asiatique, en l'occurrence le Japon, où le rugby n'est pas un sport majeur. Et pourtant, la compétition qui démarre aujourd'hui s'annonce comme un succès populaire. Jérôme Val a rencontré le seul rugbyman français qui a fait le choix de jouer au Japon. Nicolas Kraska est arrivé il y a 4 ans et il a découvert un championnat totalement différent.
Au Japon, les clubs sont la propriété de multinationales, comme les Toshiba Brave Lupus, l'équipe dans laquelle est arrivé Nicolas Kraska en 2015. Conséquence, les joueurs sont des salariés de l'entreprise et ne sont pas des rugbymen professionnels.
Au sein de l'entreprise, en fait, ils ont une division rugby où leurs employés japonais travaillent donc à l'usine, enfin dans cette société-là, et sont détachés au rugby après le boulot.
Difficile quand le club n'est pas ancré dans un territoire de créer l'engouement. Les matchs de Top League, le championnat élite, se jouent dans des stades à moitié vides, bien loin de l'effervescence autour du baseball et du foot. Nicolas Kraska.
J'ai joué dans des stades, on va dire, à moitié vides ou remplis à un tiers. Il y a quand même une affluence de entre 6 à 8 000 personnes, quoi. Mais c'est vrai que dans un stade de 20 25 000 personnes, ça fait un peu vide.
Cette saison, Nicolas Kraska évolue à Shimizu, au nord de Yokohama, en deuxième division. Et même si le rugby japonais à des limites, c'est un jeu très plaisant pour lui.
La plus grande différence, c'est la vitesse de jeu et des déplacements. Ça joue beaucoup à la main, ça court beaucoup. Par contre, en termes d'impact, c'est beaucoup moins fort qu'en France.
Avec cette Coupe du Monde, l'arrivée de stars étrangères et la perspective d'un championnat entièrement professionnel dans 2 ans, le rugby japonais est en train de se construire un bel avenir. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Et le match d'ouverture, c'est tout à l'heure à 12h45, heure française, Japon-Russie avant le match des Bleus, demain matin contre l'Argentine. Enfin, il était l'un des grands seconds rôles du cinéma français. Le comédien Charles Gérard est Molière à 96 ans, grand ami de Jean-Paul Belmondo qu'il avait rencontré sur un ring de boxe à la fin des années 40. Il était devenu le second rôle fétiche de Claude Lelouch. Il a joué dans une vingtaine de ses films, notamment dans L'Aventure, c'est l'aventure en 1972, où il donnait la réplique à Lino Ventura, extrait.
My client, would like to see the president of your company, Mr. John Davis.
John Davis.
Mais non, pas
John. John Davis. Dis-moi, Charlotte, t'es sûr que tu parles anglais?
Ah oui, parfaitement.
Répétez, Ali, my client would like to see the president.
Je ne suis pas sûr de parler si bien anglais. Merci, Agnès Soubiran.